Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Alors au sommaire aujourd'hui des enjeux, une autre question on va dire épineuse et en suspens. Le Parti socialiste pourra-t-il gouverner en Espagne ?
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Oui, un vrai cactus cette question, mais qui pique. 7 ans à gouverner, 7 jours pour être destitué, l'indéboulonnable Mariano Rajoy tombe, les affaires de corruption rattrapent le Parti Populaire et le socialiste Pedro Sanchez arrive au pouvoir, un pari risqué disent beaucoup. Bonjour Barbara Loyer.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être au téléphone avec nous, évidemment spécialiste de l'Espagne, directrice de l'Institut français de géopolitique de Paris 8. Alors Pedro Sanchez saisit l'occasion pour évincer Rajoy, mais ce dégagisme institutionnel intervient dans un pays déjà déstabilisé par les tensions avec la Catalogne, risqué ensuite parce que, indépendamment de ce vote facile avec 34 députés au Parlement, le Parti socialiste qui a dû s'allier à 5 partis dont les nationalistes catalans et basques est faible, il n'aura d'ailleurs pas l'appui de Podemos. Enfin, parce que urgence économique, moralisation politique et réforme institutionnelle vont ensemble, c'est donc une opportunité qui peut aussi être un risque avant une triple élection municipale, régionale et européenne en mai 2019 en Espagne. Alors Joaquim Torra, le catalan, a déjà demandé à Sanchez de prendre des risques. Va-t-il le faire ? Sur la passation, Barbara Loyer, les leaders ont voulu jouer l'apaisement, hein, on l'a vu, puisque Sanchez a parlé de réparer les blessures. Rajoy voulait être le premier à féliciter Sanchez, lui qui disait qu'il était prêt à s'allier avec n'importe qui, à n'importe quel prix. Ça vaut quoi cet apaisement ?
Ça, ce sont un petit peu des gestes de façade, mais qui ont quand même un intérêt, en ce sens que ce que ça prouve, c'est que le système fonctionne, que la démocratie espagnole est solide, contrairement à ce qui a été beaucoup dit ces derniers temps avec la question catalane. Donc, ces gestes d'apaisement, ils sont nécessaires, on va dire, en ce sens que... Il démontre ça. Maintenant, la situation en Espagne, elle est quand même extraordinairement instable. Et là, on ne sait pas du tout, en fait, ce qui va se passer. Les choses peuvent avoir présenté des avantages et des inconvénients pour tous les partis, en fait. C'est à la fois des risques et des opportunités pour l'ensemble des partis politiques qui sont en train de jouer une partie de poker. Qu'on pourrait presque appeler une partie de poker menteur, en fait, parce que dans cette histoire, tout le monde est en fait orienté vers les prochaines élections municipales s'il n'y a pas des élections législatives anticipées.
Oui, donc en mai.
Et autonomiques.
En mai 2019, qui devrait coïncider le 26 mai avec les européennes. Juste sur justement le contexte et les nouvelles personnalités en place. Donc il y a eu Joaquim Torra en Catalogne, Sanchez à Madrid. C'est un peu la rencontre, on pourrait dire, de deux imprévus. Sanchez, qu'on présente souvent comme le candidat élu par désistement mais obstiné, et Quim Torra, qui était un peu le plan D finalement dans cette histoire de choisir un président du Parlement catalan.
Là, ce qui est un petit peu particulier, c'est que Pedro Sanchez, il y a encore une semaine, dénonçait le racisme de Quim Torra, qui a écrit un très grand nombre de tribunes d'opinion ouvertement racistes contre les Espagnols, qui vient de nommer aussi un certain nombre de conseillers qui publient des tweets également racistes. Donc il y a une semaine, Sanchez disait que ça, c'était tout à fait inacceptable. Et là, pour pouvoir saisir l'opportunité de renverser le gouvernement du Parti populaire, brusquement, il s'est assis sur ses réticences. Donc, c'est ça qui est un petit peu particulier, c'est que se retrouvent ensemble à parler de dialogue des personnes qu'il y a une semaine... était a priori tout à fait incompatible sur la question fondamentale de la démocratie.
Et précisément, Pedro Sanchez a parlé de jeter des ponts avec la Catalogne. C'est une expression qui a sans doute été bien choisie. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous, qu'il veut renouer sous certaines conditions? On sait déjà, par exemple, qu'il ne veut pas de référendum sur l'indépendance.
En fait, il va du coup pouvoir suivre un petit peu ce qui est la position du Parti Socialiste catalan. Le Parti Socialiste en Espagne est confédéré avec le Parti Socialiste catalan. Il n'aurait pas, il a absolument besoin du Parti Socialiste catalan et c'est réciproque. mais néanmoins, elles ont tous les deux des positions qui sont finalement souvent assez différentes. Et les socialistes catalans sont, on va dire, catalanistes. Et en fait, catalanistes, ça veut dire des gens qui essayent de ne pas choisir, de pas dire, pas choisir entre indépendance de la Catalogne ou unité de l'Espagne, qui ont un projet, on va dire, fédéral. Et donc, il essaye d'être tout le temps entre deux. Mmh. C'est un discours dans lequel le mot dialogue est en effet absolument permanent. Et donc là, l'idée, c'est de rejoindre un peu la position des socialistes catalans et d'essayer d'améliorer leur situation, notamment au sein de la gauche, parce que les socialistes catalans ont perdu énormément de pouvoir face à la gauche En Comú Podem, ouais, qui sont à Ada Colau. Et donc leur problème, c'est d'arriver à récupérer un petit peu de pouvoir grâce au Parti Socialiste Catalan. Le seul problème, c'est qu'en face, le seul dialogue offert par les séparatistes catalans, c'est l'indépendance. La première décision qui a été prise, c'est de mettre à la porte des chefs de la police autonome qui, n'ayant pas été hostiles au gouvernement espagnol pendant la période de l'article 155, sont jugés comme des collaborateurs.
Ouais, justement, Quim Torra, donc, je le rappelle, investi samedi, le même jour Mariano Rajoy, enfin que Pedro Sanchez était également élu par le Parlement. Prendre des risques, justement, c'est ce qu'a dit encore Quim Torra. Si on essaye de le voir concrètement, comment est-ce que ça pourrait se dérouler? Est-ce que c'est ce fameux article 155 dont on sait aussi que les Basques veulent qu'il soit désactivé de la Constitution, ce qui permet à Madrid de reprendre la main sur les communautés autonomes? Ou alors, est-ce que c'est des demandes plus ponctuelles, là, concrètement, faire libérer les personnalités politiques emprisonnées pour rébellion, les personnalités catalanes?
C'est-à-dire, en fait, je pense pas que le gouvernement espagnol puisse décider à la place des juges ce qu'ils vont faire.
Oui, c'est ça la difficulté.
Donc là, de toute façon, je pense pas que ce soit qu'ils aient complètement la main là-dessus. Ils ont aussi, à un moment donné, parlé d'éventuellement faciliter le rapprochement de ces prisonniers catalans de la Catalogne, comme c'est également ce que demandent les nationalistes basques sur les prisonniers de l'ETA. Ça pourrait éventuellement être ça. Ça pourrait être aussi un allègement, on va dire, du contrôle des comptes de la Généralitat, puisque les comptes de la Généralitat sont contrôlés depuis 2012, en fait, comme l'ensemble des comptes des communautés autonomes, puisqu'il a fallu essayer de limiter le déficit budgétaire des communautés autonomes au moment où le gouvernement a mis en place un fonds de liquidité pour les autonomies, pour faire en sorte que les autonomies puissent avoir accès à des crédits. Et parce que la Catalogne, sur le marché international, ne pourrait pas obtenir des crédits à des taux viable, on va dire. Donc l'idée, ça serait d'avoir des décisions un peu symboliques de ce type-là, mais encore une fois, je pense pas qu'il ait la main sur le tout. Il a aussi dit qu'il prenait le pouvoir en respectant les engagements européens, mais on ne peut pas laisser non plus le budget catalan partir sans contrôle. Oui. Donc, de toute façon, c'est un peu la quadrature du cercle.
Et alors, justement, vous parlez du budget qui respecte les engagements européens. Pedro Sanchez s'est engagé à le respecter, mais c'est également ce budget qui avait été l'objet d'une négociation l'année dernière. On a un peu l'impression que le Parti Socialiste a négocié son approbation du budget pour obtenir la participation de ce fameux parti nationaliste basque. Cette fois-ci, 5 députés pour obtenir cette motion de censure contre Rajoy. Le Parti nationaliste basque qui pourrait demander plus aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une difficulté supplémentaire ou la principale aussi?
C'est celle qui va se présenter peut-être tout de suite, puisqu'en effet le Parti populaire avait négocié des investissements pour 540 millions d'euros au Pays basque. Et puis d'autres éléments très favorables au parti nationaliste, on va dire au gouvernement autonome basque qui est dominé par les nationalistes, pour obtenir le vote du parti nationaliste du budget. Donc ça venait d'avoir lieu et le Parti populaire était donc bien content dans l'idée que ça y est, ils avaient la stabilité. Et donc le Parti populaire maintenant se sent trahi par le PNV et il se trouve que les budgets doivent encore passer au Sénat. Or au Sénat, le Parti populaire a la majorité absolue. Donc s'il décide de demander des nouveaux amendements par exemple, pour retirer une partie de ses investissements du Pays Basque et puis les mettre ailleurs, ce que certains sénateurs demandent, alors ça ouvre la possibilité que les alliés d'un jour de Pedro Sanchez demandent aussi des amendements, alors qu'ils se sont engagés en principe à accepter ce budget tel qu'il est. Donc le Parti populaire, même s'il vote partiellement, on va dire, le fameux budget, même si le simple fait qu'il exprime sa colère en disant ben, « nous, on demande quelques amendements au Sénat », ça ouvre la possibilité d'amendements dans la Chambre des députés, et donc ça ouvre peut-être une période d'instabilité, puisque déjà, Podemos avait demandé à avoir des ministres, et le Parti Socialiste a dit non.
Oui, de l'instabilité sur l'instabilité, à voir s'il y aura ou pas des élections anticipées. Pedro Sanchez n'est pas très clair là-dessus. On en reparlera bientôt. En tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui, Barbara Loyer. Je rappelle, directrice de l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8.